Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonjour à tous, c'est Paul et je suis ici avec la fine fleur de l'éducation nationale de la pensée moderne de Sciences Po. Vous l'avez bien reconnu, c'est l'équipe du Popcorn Salé et on va vous parler aujourd'hui de trois films, de films qui traitent de l'actualité, de films documentaires, mais aussi et surtout de films qui parlent du passé, du présent qui nous touche. Et je suis notamment en compagnie de Valentine.
Bonsoir.
Margot.
Bonsoir.
Stal.
Bonsoir.
Jeanne.
Bonsoir.
Juliette.
Bonsoir.
Avec Cassie.
Bonsoir.
Et Arthur.
Bonsoir.
Et donc on va vous parler, vous l'avez bien compris, du Jeu de la Reine de Karim Aynouz, de Apollonia Apollonia de Léa Globe et de Pas de Vague de Teddy Lucie Modeste. Mais avant tout court d'ailleurs, on va faire une petite question d'actualité. Vous l'avez peut-être vu, la fondation OpenAI vient de sortir une nouvelle vidéo pour démontrer l'ampleur de la force de son modèle d'intelligence artificielle générative. Et dans ce cas-là, le projet appelé Sora, qui permet maintenant, en écrivant quelques lettres, quelques mots à l'intérieur de votre ordinateur, de générer des vidéos entières qui vous permettent de faire des voyages au Japon ou des petits courts-métrages médiocres à base de mecs à tête de ballon. Mais cela pose évidemment plein de questions, des ramifications, des problématiques. Est-ce que ça va servir à virer des gens ? Est-ce que ça va servir à produire des contenus intéressants ? Est-ce que c'est une révolution ? Est-ce que c'est une désévolution ? Sommes-nous tous des ludistes idiots ou faut-il vraiment brûler ce genre de proposition ? Sans aucune orientation, je vous laisse prendre la parole sur le sujet. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans l'arène ?
Non, malheureusement, c'est vraiment pas un sujet sur lequel j'arrive à me positionner. J'ai l'impression que c'est très récent. Je pense au début de la photographie et du fait qu'on ait pu dire il s'agit juste d'appuyer sur un bouton, c'est pas de l'art. Et puis après, on est devenu. Je pense que c'est des débats qui sont très denses, mais du coup, je préfère laisser la parole à quelqu'un qui veut peut-être un avis plus positionné sur la question. Au hasard, Valentine.
Non, là, tu me surprends. Non, mais moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que, sans tomber dans le discours effectivement, dans un discours réactionnaire de dire il faut absolument interdire, etc., moi, je pense qu'il faut absolument, de toute façon, que ça s'accompagne d'une réflexion légale, parce qu'on a déjà suffisamment de problèmes pour rétribuer nos auteurs. Que voilà, si en plus vient à ça s'ajouter des problématiques d'intelligence artificielle complètement sauvage sur le plan de la légalité, du droit d'auteur, etc., je pense que ça va poser un vrai problème de précarité des artistes. En termes de contenu, est-ce que ça va produire du contenu de qualité? Ça, j'ai envie de dire, il y a déjà suffisamment de contenu de très médiocre qualité qui est produit sans qu'on ait besoin de l'intelligence artificielle, et je pense qu'au contraire, ça, sur le plan artistique, ça peut constituer un outil qui peut se révéler intéressant comme tous les outils. Enfin, je pense que la position qu'on peut appeler ludiste ou qu'on peut appeler réactionnaire est de toute façon pas très intéressante dans ce cadre-là, comme elle a l'habitude de ne pas l'être.
Moi, si je peux juste... je suis complètement d'accord avec vous. De toute façon, un outil, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on est faite. Et puis là, on est au tout début, donc c'est difficile d'avoir un avis. Moi, ce qui me questionne juste, c'est au niveau écologique, est-ce que c'est vraiment pertinent de toujours essayer de vouloir inventer de... Enfin, bien que je pense pas que... je questionne pas la possibilité, et est-ce qu'on peut faire autrement, mais en tout cas, est-ce que c'est pertinent d'essayer de toujours faire des nouveaux outils qui consomment énormément? J'ai évidemment pas de chiffres parce que...
Juste pour te répondre, il y a un article de Arrêt sur Image qui est paru il y a 2-3 semaines qui parle justement de la consommation des intelligences artificielles et qui disait que d'ici quelques années, une dizaine d'années, parce que là c'est en train de se lancer petit à petit, l'ensemble des entreprises qui font fonctionner l'intelligence artificielle en data center, ça représentera environ la consommation annuelle du Royaume-Uni.
Voilà, moi c'est juste que je me demande d'un point de vue strictement écologique... À quel point cet outil peut vraiment être bénéfique compte tenu de tout le négatif qu'il peut aussi nous apporter juste en termes d'empreinte carbone ou que sais-je. Et voilà, c'est vraiment juste une réflexion de grosse gaucho angoissée par le climat.
Je pense aussi qu'il y a des boîtes de production qui utilisent l'intelligence artificielle et la production virtuelle, qui disent en contrepartie que ça aide à diminuer les voyages et à faire des coproductions entre pays lointains sans déplacer les équipes. Donc il y a un argument un peu de ce côté-là, mais après, certes, il faut voir l'impact carbone de la production en soi avec IA.
Et tu soulignes quelque chose de très intéressant aussi, c'est que tous ces outils, en fait, ce mot-clé intelligence artificielle ne veut pas dire grand-chose. On a parlé récemment de l'utilisation notamment de technologies génératives pour le film Dune. Et en fait, la question qui se pose là-dedans, et en général, c'est la régulation de ces modèles. Parce qu'en fait, les modèles d'intelligence, de logiciels génératifs, ça existe depuis 25 ans, tout le monde les utilise. Photoshop utilise des modèles similaires depuis des années, ne serait-ce que les outils les plus bêtes, les contours magiques, ce genre de trucs, ça apprend en fait. C'est déjà des outils en fait, d'intelligence artificielle qui apprennent. Maintenant, la question qui se pose généralement sur les nouveaux modèles, et c'est bien que tu le soulèves, c'est en fait, et c'est aussi ce que disait Valentine, c'est le fait que ces nouveaux modèles souvent sont sourcés à partir de bases de données qui sont mal contrôlées. Par des gens qui sont souvent peu scrupuleux, voire qui sont construits à partir d'exploitation de travailleurs dans des pays, on peut plus vraiment dire tiers-monde, d'ailleurs ça ne se dit plus du tout, on va dire du sud économique, du sud global même, qui sont payés une misère pour identifier des centaines et des centaines et des centaines d'images toute la journée pour construire ces prétendues intelligences artificielles. Mais en fait, l'intelligence artificielle en elle-même, on a dit, la technologie, on n'arrête pas le progrès, tu l'as dit, Jeanne, c'est quelque chose qu'on utilise déjà, effectivement, et quand c'est sur des modèles qui sont in-house, quand tu utilises tes propres données pour le faire, il n'y a aucun problème, c'est un outil comme un autre. Donc c'est bien de le rappeler, tu as raison.
Non, mais tu l'as dit, il y a un gros problème qu'aujourd'hui, et ça a été prouvé là, alors je sais pas sur les images, je sais pas vraiment, mais ça a été prouvé sur les textes générés par OpenAI que c'était des textes qui n'étaient pas du tout libres de droit, qui piochaient allègrement dans des œuvres humaines. Et c'est aussi une des principales limites en fait, qu'a l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne crée pas, elle réagence des briques qu'elle a ingurgitées, alors dans des quantités qui sont complètement astronomiques, mais elle ne crée pas. Et comme tu l'as dit, Paul, le plus important, c'est l'input, c'est qu'est-ce qu'on met dans cette IA. Et tu l'as dit, ça fait 20-30 ans que Hollywood utilise l'intelligence artificielle. Enfin, dans Le Seigneur des Anneaux, ils n'ont pas animé chaque pecno qui se battait les uns contre les autres. C'était déjà une intelligence artificielle qui gérait ça et qui gérait l'animation de tous les personnages. Ce qui change aujourd'hui, c'est que là où c'était avant des outils d'initiés, c'est devenu maintenant un outil qui va s'ouvrir progressivement au grand public, à des productions qui n'en avaient pas les besoins, et surtout va devenir, enfin qui va être possible à des coûts mais infimes. Enfin, je veux dire, aller au Japon et filmer va quasiment être possible maintenant en 3 clics. Moi, je pense que c'est aussi là-dessus que ça va changer. Puis vous l'avez dit, il y a tout l'argument législatif qui est hyper important. Alors, je crois que ça a évolué maintenant. Je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou en France ou les deux, mais je crois que c'est obligatoire pour un studio de mentionner s'il a utilisé l'intelligence artificielle dans l'écriture de son scénario, que ce soit pour les dialogues ou pour la structure globale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a déjà qui assument, Netflix par exemple, assume de générer des plots de séries, de films, ça. Alors ça, c'était sorti il y a déjà 5 ou 6 ans, mais qui assume complètement d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer des plots, des embryons d'histoire retravaillés après derrière par des scénaristes, mais dont l'impulsion première est générée générée par une IA.
Il suffit, ouais, il suffit.
Sachant qu'à date, et tu fais bien de le rappeler, aux États-Unis en tout cas, un produit généré par intelligence artificielle n'est pas protégé par une quelconque forme de copyright. C'est comme parce que a été utilisé cet arrêté qui avait été fait suite à la photo prise par un singe. Grande histoire vraie passionnante, mais en fait un photographe a tenté de monétiser une photo qui avait été prise par un singe à partir de son appareil. Or le singe n'est pas considéré comme un créateur de contenu conscient, et donc c'est un peu du spécisme, mais le spécisme est en train d'empêcher l'IA générative de créer du contenu copyrighté, donc vous ne pouvez pas voir ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Mais donc en l'état, effectivement, ce ne sont pas des contenus qui sont protégés. Donc ça peut servir de brouillon, mais ça ne peut pas servir de produit protégé par la loi de copyright américaine, ce qui est plutôt une bonne chose, je pense.
Est-ce que je peux dire quelque chose qui n'a absolument aucun rapport ?
Va.
On est en plein Black Mirror ou quoi ? Ça n'a absolument
aucun rapport. Littéralement 1984.
Ça n'a aucun rapport, mais je me permets une petite intervention parce qu'il y a quelques semaines, on avait fait une question d'actualité sur les cinémas qui fermaient, etc. C'était sur les Champs-Élysées, mais récemment, je suis allée au Luminor cette semaine pour une séance d'un ciné-club qui était super. Et en fait, le Luminor est menacé de fermeture. Donc voilà, c'était pour vous dire, si jamais vous voulez soit donner de l'argent, soit éventuellement juste partager cette cause, il y a une pétition à signer notamment qui est disponible sur leur site. Vous pouvez y aller parce que le Luminor, c'est un super cinéma. Et c'est bien les cinémas indépendants dans Paris. En gros, je crois que le propriétaire veut juste les virer pour pouvoir louer à quelqu'un plus cher, genre un Zara ou un truc comme ça. Et ce serait quand même vraiment super dommage. Là, ils sont en procédure judiciaire. Je crois que ça les aiderait beaucoup. Ils nous ont dit si vous pouvez signer une pétition. Donc, n'hésitez pas, elle doit être disponible sur leur site.
Alors, on va passer au film de la semaine. Et on va commencer par Le Jeu de la Reine, réalisé par Karim Aynouz, dont le premier film la vie imaginaire de Eurydice Gusmao, moi, m'avait plutôt convaincu à l'époque quand il était passé à Cannes. Et il nous revient donc cette année pour un deuxième film avec Alicia Vikander, que vous avez peut-être vu récemment dans Irma Vep, et Jude Law, qui a été déguisé comme un clown. Et je laisse Valentine nous le présenter.
Firebrand, qui est donc quand même un titre beaucoup plus sympa que Le jeu de la reine, c'est l'histoire de Catherine Parr, qui est la dernière femme du roi Henri VIII, que vous connaissez peut-être tous et toutes ou pas, pour avoir inspiré notamment le personnage de Barbe Bleue, et s'être plutôt mal conduit avec ses 5 épouses, puisqu'il y en a, pardon, 6, oulala, le vénard s'être plutôt mal conduit avec ses 6 épouses, puisque sur les 6, il y en a quand même 2 qui ont fini décapitées par ses soins pour des raisons politiques, et c'est sur cet aspect que va se concentrer le film de Carrie Maynous, puisqu'on suit donc la reine Catherine, qui est un personnage extrêmement seul, et qui se retrouve dans une position politique très complexe, puisqu'elle va être au centre de la réforme protestante et de l'extrême violence de la répression de cette réforme par le roi Henri VIII, et porter ce combat politique, si on peut parler de combat politique, seul au sein d'un couple royal qui est examiné par ce film. Est-ce que quelqu'un veut en parler, Costel?
Oui. Donc je vais en parler. Pour moi, je pense que le récit est un vrai atout dans ce film, parce que le récit qui est fourni juste par l'histoire, parce que donc, c'est l'histoire de Catherine Parr, tu l'as dit. Et Catherine Parr, moi je la connaissais pas. Je sais pas si vous la connaissiez, mais j'ai l'impression
qu'elle est quand même.
Non, mais par rapport à, par exemple, Anne Boleyn, dont on entend tout en parler et qui a fait l'objet de nombreux films, nombreuses séries, Catherine Parr, c'est pas vraiment un personnage qui a été traité ni par les historiens ni par la fiction.
C'est aussi parce que c'est les dernières saisons des Tudors, donc c'est le moment où plus personne regardait la série, quoi.
Ça doit être ça. Mais du coup, c'est un personnage qui est assez intrigant et du coup qui donne matière évidemment à une fiction. Et il y a des échos indéniables qui sont faits avec le présent, parce que c'était un personnage qui était très impliqué politiquement. C'était un personnage qui se positionnait sur cette question de réforme de religion en Angleterre, qui était très intelligente, qui avait une grande érudition, qui se plaçait sur la scène politique et qui a été régente d'ailleurs pendant quelques mois. Et donc c'est montré au début du film. Et donc voilà, c'est assez facile de se dire que cette femme, elle a existé par elle-même, au-delà de son mari, et qu'elle a eu un pouvoir et qu'elle a eu un impact. Et donc elle peut être érigée aujourd'hui en icône féministe. Moi, je trouve que le film en fait quelque chose de pas très subtil, surtout au début, dans la première demi-heure, où il explicite vraiment abusivement son propos de... cette femme est une icône féministe, regardez, elle est incroyable, et l'histoire doit être modernisée, donc il modernise un peu ses dialogues, on a l'impression d'être au XXe siècle, quoi. Enfin, par exemple, du coup, les scènes de révolution de la première demi-heure sont extrêmement mal écrites, et la femme qui est censée mener cette troupe révolutionnaire contre l'église anglaise utilise par exemple le terme de diktat. Bon, je sais pas ce que le terme de diktat veut dire au XVIe siècle, mais je pense qu'il veut pas dire grand-chose. Bon, je demande pas des scénarios en ancien anglais, mais bon, quand même, je pense qu'il y a... Enfin, faut rester un peu sérieux, diktat, ça veut rien dire au XVIe siècle, quoi. Donc, il y a un contraste qui est hyper étrange entre cette modernisation des dialogues qui est pas très subtile, ce propos féministe plaqué un peu superficiellement au personnage de Catherine Parr, et le grand académisme de la réalisation, qui, pour le coup, est très sage. La musique est très académique, très classique, les plans sur les chevaux, machin, sont vraiment vus et revus. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun parti pris particulier dans la mise en scène. Et du coup, le contraste dans la première demi-heure, en tout cas pour moi, il ne marche pas du tout, quoi. Enfin, il est très frappant et vraiment dérangeant.
Bah, moi, je ne suis absolument pas d'accord sur aucun des points. Déjà, sur le fond, je ne trouve pas... Désolé, c'était un peu bold of me. Non, je suis pas d'accord. Déjà, sur le fond, je trouve pas qu'on en fasse une icône féministe de manière caricaturale. Au contraire, je trouve que le rapport de ce corps qui est contraint par la société dans laquelle elle vit, et en plus par son devoir d'État et de reine, le rapport de ce corps-là à ce qu'elle pense et à son positionnement, j'ai pas envie de dire politique, c'est plutôt un positionnement religieux, bon, qui devient politique aussi, mais je trouve que le rapport entre ces deux aspects-là est étudié de manière assez intéressante, parce qu'on voit sans cesse dans le film comment le fait que ce soit la reine et le fait que ce soit une femme étouffe complètement tout le reste jusqu'à la fin du film,
le reste de la table.
Que je ne vais pas du tout spoiler, mais qui nous offre un twist qui est un twist politique, mais qui est avant tout un twist, une vengeance physique en fait. Et c'est là que je vais pas trop joindre non plus sur la mise en scène, c'est que je trouve que là où on a l'habitude de voir effectivement des films d'époque dans des costumes magnifiques, extrêmement guindés, qui bloquent les personnages avec des dialogues extrêmement châtiés où rien ne bouge, là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une électricité dans la mise en scène où les personnages se jettent les uns sur les autres, bougent, mangent, manipulent des objets, chantent. Et justement, là, je te rejoins encore pas sur la musique. Je trouve ça assez original de faire chanter Henri VIII avec une musique intradiégétique au lieu de mettre, comme toutes les mises en scène contemporaines, entre énormes guillemets, de films d'époque où on nous met des musiques... c'est chiant, quoi, des musiques commerciales. Enfin, je pense pas du tout à Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait justement de l'originalité là-dedans. Et moi, j'ai été bluffée par l'éclairage, et c'est un truc auquel je suis très sensible, et que je vois vraiment rarement des beaux éclairages, et là j'ai trouvé que c'était magique. Enfin, je sais pas, j'ai pas les termes techniques pour mettre en mots ce qu'on voit, mais c'est vraiment magique, au-delà des costumes où voilà, on voit qu'ils ont beaucoup de budget, ils ont de la vraie fourrure, etc. Vous savez à quel point j'aime la vraie fourrure. Mais non, là j'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail sur les bougies, sur les zones d'ombre, sur les bleus et tout, qui était bluffant. Après voilà, là où j'ai une grosse réserve, c'est que je trouve que c'est un film qui manque de rythme, et que même s'il y a un propos intéressant sur... que je trouve pas du tout qu'il reste dans « Ah, c'est génial, c'est une icône féministe et on plaque un discours féministe sur cette figure-là », moi je trouve pas que ce soit ça le problème. Je trouve plutôt qu'il y a un problème de rythme et du personnage de Catherine Parr, qui est peut-être justement trop un personnage un peu... qui a une seule caractéristique, c'est d'être déchiré entre son devoir... de reine et la position politique dans laquelle elle se trouve. Je trouve que c'est un personnage qui est un peu du coup monolithique.
Bien, je ne suis d'accord avec aucun d'entre vous deux, donc c'est bien. Personne n'est d'accord sur ce film. Non, plus sérieusement, je te rejoins un peu sur la musique. Pas la musique en général, la musique extra-diégétique est tout à fait plate et il y en a trop. Mais la musique intra-diégétique, effectivement, les chansons, je trouve, rejoint un thème assez central du film, c'est que c'est un film où tout le monde est hyper bruyant. En fait, tout le monde est bruyant tout le temps pour éviter le silence. Or, en fait, on devrait l'entendre, ce silence, si on ne l'entend pas, parce que quand il y a du silence, c'est-à-dire quand Henri VIII arrête de beugler, et vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais effectivement, les performances sont assez inégales dans le film, je trouve. Je trouve que Vikander est quand même très effacée, alors qu'elle pourrait donner peut-être un peu plus de vie au personnage. Et là, elle est trop froide, elle est trop... Elle n'est pas vraiment calculatrice, elle est... Je sais pas, il n'y a pas grand-chose. On n'arrive pas vraiment à trouver une quelconque forme d'incarnation, mais Jude Law, lui, on lui a dit de faire le clown, et il fait le clown, donc c'est super. Il joue son roi tonitruant, il joue Barbe Bleue, il a pris le rôle à cœur, il est dans l'excès tout le temps, et c'est un peu entre sa très belle collection de barbes, par contre. Au-delà de tout ça, donc c'est un film où les gens continuellement font du bruit, il y a un bruit continuellement, et en fait, on n'entend pas le silence quand il n'y a plus ces hommes dans la salle, ces hommes tonitruants avec leurs grosses barbes. Et c'est un peu malheureux. Je te rejoins néanmoins, Costal, sur le fait que je ne trouve pas non plus le film très subtil. Ils ont quand même mis la pervenche bloquée dans un château, dans une salle pleine d'oiseaux en cage. Je dois admettre que ce n'est pas la métaphore visuelle la plus subtile du monde. Et le film, en général, est quand même très lourd. Mais justement, là-dedans, ils trouvent un truc assez simple. C'est que je trouve que c'est plutôt un bon petit thriller, en fait. Une fois que la machination politique est lancée, l'intrigue, cette espèce d'étau qui se referme sur ce personnage, une espèce de course à la mort, sans que je vous en explicite effectivement les objectifs, en fait, on s'amuse bien. Mais malheureusement, c'est un peu là où s'arrêtent mes commandations. C'est-à-dire que c'est plutôt bien, plutôt divertissant. On comprend assez vite le film et on s'amuse bien. Effectivement, c'est plutôt bien mis en scène et je te rejoins. L'image, je la trouve très belle. Autant je trouve la mise en scène assez éculée, les plans sont pas passionnants et les métaphores visuelles sont assez lourdes. Autant dire qu'il y a un formidable fusil de Tchekhov où au début sa pote lui dit un truc sur son sort final et il y a exactement la même image à la fin, au cas où vous n'ayez pas compris. Sauf que c'est des draps rouges. Les gens qui ont vu le film comprendront. Donc je ne trouve pas ça très subtil. Par contre, je trouve l'image très belle. Je suis d'accord avec toi. Il y a un truc avec la lumière, le grain, cet endroit qui filme leurs costumes. Autant les costumes de paysans sont très moches et pas assez sales. Il y a un manque de saleté générale dans le film. C'est triste parce que c'est un film qui parle de la peste, qui parle d'une époque où tout le monde est sale tout le temps. Et en fait, les gens ne sont pas vraiment très sales. Donc je pense qu'ils avaient des costumes très chers et qu'ils avaient très peur de les abîmer parce que ça manque grosso modo de saleté. À part quelques scènes un peu crasseuses vers la fin et en général la jambe de Henri VIII. Donc, en fait, je suis entre les deux. Je trouve que la mise en scène est pâteuse, l'image est belle, La musique est très inégale. Je ne comprends pas pourquoi le film se termine. Et je ne parle pas des crédits, mais vraiment des crédits qui déroulent après les crédits principaux.
Ce
par Down by the Water, ouais, de PJ Harvey. Ce qui m'a fait un peu sursauter parce que c'est une très belle chanson. Enfin, je sais que Costal ne l'aime pas, mais c'est quand même une très 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 belle chanson. Et ça n'a aucun sens d'avoir les droits pour cette chanson et de la foutre là au moment où les gens seront vraisemblablement sortis de la salle. Enfin, c'est étrange. Je n'aime pas du tout le ton du film, la narration extrêmement lourde, tu l'as dit, le texte de début au cas où on n'est pas compris. Ensuite, Elisabeth, la future girl boss, dont on nous annonce quand même à la fin que grâce à elle, 42 ans de règne sans guerre ni homme, enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Non pas que je ne sois pas pour Elisabeth, mais c'est un peu strange comme conclusion. Donc ouais, je trouve que c'est un film qui est un peu le cul entre deux chaises, mais qui paradoxalement est un bon divertissement. Donc je ne suis pas mécontent de l'avoir vu. Mais j'ai du mal à en tirer autre chose qu'un plaisir un peu plat de cinéphile.
Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Le carton de fin sur le règne d'Elisabeth et le traitement de ce personnage en général est assez décevant et assez caricatural. En revanche, moi, je reviens sur ce que j'ai peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais le rapport des corps qui sont enfermés dans ces costumes du 17e qui sont hyper lourds et hyper. C'est même plus que là, on n'est même plus au stade du corset. Il y a des fraises, des machins, des trucs, des tissus qui pèsent 3 tonnes et tout. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans la jambe d'Henri VIII qui est en train de se putréfier, dans le fait que Alicia Vikander fait une fausse couche qui est montrée de manière assez crue dans les scènes de viol. Il y en a quand même deux dont on n'a pas parlé qui sont hyper violentes, logique. Il y a quelque chose qu'on veut nous dire sur le rapport de ces corps-là qui sont complètement portés au nu par leur positionnement de roi et de reine, mais qui sont en même temps écrasés littéralement et putréfiés par cette même position politique. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant d'explorer ce rapport au pouvoir, un peu au corps du roi, au corps de la reine.
Oui, mais enfin, moi, je trouve que c'est assez facile de jouer sur ça pour un film d'époque. En tout cas, j'ai l'impression que les films d'époque sont quand même nombreux à traiter de ce truc de l'enfermement dans un château, l'enfermement dans les costumes, etc. Je trouve pas que ce soit quelque chose de fondamentalement très original dans la mise en scène, et la lumière, bon, vous l'avez dit, elle est très très belle effectivement, mais bon. Faire un peu une lumière, des plans un peu picturaux, lumière clair-obscur, 16e siècle, je trouve pas que ce soit non plus un truc très très nouveau, mais juste, je pense qu'il y a un contraste, je dis pas que c'est un film qui est moche ou désagréable, mais je pense qu'il y a un contraste entre le fait qu'il a voulu vraiment moderniser le récit et moderniser cette figure, avec un parti pris très fort et vraiment explicité, limite abusivement au début avec une phrase, machin, et cette mise en scène qui vraiment manque de parti pris, tout simplement. Mais je suis d'accord pour dire que c'est un bon divertissement. Je pense qu'il y a une tension qui monte de manière très efficace et un crescendo qui est très bien maîtrisé à partir du moment où Henri VIII il arrive dans le récit, en fait, ou à partir du moment où il arrive dans la scène, parce que effectivement Jude Law, il est vraiment, il se fait vraiment plaisir et ça fait vraiment très peur. Enfin, hein, il est à la fois violent, sadique, imprévisible, atrabilaire. Enfin, il fait peur, quoi. Et effectivement, du coup, cette montée en tension entre il est agonisant, est-ce qu'il va mourir avant de faire décapiter Catherine Parr, ou est-ce que Catherine Parr, grâce à son intelligence, va réussir à s'en sortir et donc va réussir à avoir la vie sauve et qu'il meurt avant. Enfin, il y a un côté un peu une course, quoi, qui est assez intéressante à voir à l'image. Mais c'est vrai que du coup, au-delà de ça, il n'y a pas de propos très marqués, je trouve.
Bah si, justement, je trouve que moi, ces 15-20 dernières minutes où on a justement cette alternance et cette course à est-ce que, en gros, le corps du roi va mourir avant le... Enfin, on est encore dans cette dualité entre corps et politique que je trouve... Enfin, pas dualité, mais dans cette complémentarité plutôt, que je trouve passionnante, même si elle se fait pas décapiter à la fin. J'aurais adoré, en fait.
En fait, elle était du côté d'Henri VIII depuis le début. Bon, vous l'avez compris, ce remake Made in UK de Jeanne Dubarry nous laisse finalement assez contents. On n'est pas forcément tous d'accord sur ses intérêts ou peut-être même sur sa profondeur, mais on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est plutôt un bon moment à passer. Donc on va passer d'ailleurs, en parlant de passer le passage, on va passer au deuxième film. Et ce film, c'est évidemment Apollonia Apollonia, réalisé par la documentariste danoise Léa Glob, et c'est Margot qui nous le présente.
Oui, alors Apollonia Apollonia, c'est un documentaire, tu l'as dit, sur une artiste peintre qui s'appelle Apollonia Sokol. Et toute la particularité de ce documentaire réside dans le fait que la réalisatrice, en fait, a tourné ce documentaire sur 13 ans. Donc c'est vraiment un documentaire qui a pour objectif de montrer des bribes de vie et puis aussi de parler de, d'un certain milieu artistico-militant parisien, l'avoir moderne, tout ça. Donc il y a toute une galerie de personnages qui gravitent autour de cette peintre qui en fait est très charismatique et qui... et dont la personnalité en fait intéresse plus la réalisatrice que son œuvre en elle-même. En fait, c'est pas tant un documentaire sur une peintre que sur une femme. Voilà, qui est-ce qui pourrait nous en parler? Juliette, peut-être que tu veux commencer.
Allons-y. Moi, j'avoue que j'avais super envie de voir ce documentaire parce que du coup, Jeanne, t'en avais parlé dans nos top de l'année et tu avais fait un petit teasing sur le film. Qui m'avait fait très envie et j'ai été j'étais ravie de le voir. Je trouve que il est en fait, je crois que ce qui m'a séduit dans ce film, c'est qu'il arrive à mêler très bien intime et politique. Moi, les documentaires, il y a des fois ils ont tendance à m'énerver énormément parce que j'ai l'impression de rien apprendre et que le but d'un documentaire, je pense, c'est quand même toujours d'apprendre quelque chose, que ce soit au niveau de l'intime ou au niveau plus général. Et il y a des fois on n'apprend rien et moi ça me pose réellement un souci quand là je trouve pas du tout. Il montre extrêmement bien, en tout cas je pense et d'après ma petite connaissance, du milieu de l'art, comment est-ce qu'on construit un parcours. Parce qu'en fait ce qui est fou, tu l'as dit Margot, c'est qu'elle va suivre, du coup Léa Globe va suivre Apollonia Sokol de ses débuts à l'école des Beaux-Arts jusqu'à pas la fin de sa carrière, mais une certaine apogée quand même. Il y a du temps qui passe, 13 ans, c'est énorme. Et on voit un peu toutes les pressions qui peuvent se mettre sur les artistes contemporains, et notamment les artistes contemporaines, parce que c'est bien là le sujet du film, c'est qu'est-ce que c'est être une artiste femme aujourd'hui, peut-être pas en 2024, parce que quand elle commence, on est plutôt dans la décennie des années 2000, ensuite ça s'arrête vers... 2021, je dirais.
C'est de 2009 à 2021, ouais.
2009 à 2021, pardon.
2022, pardon.
Ouais. 2022. Ouais. Et donc, c'est quand même assez frappant toutes les épreuves que ça mêle. Et en même temps, en fait, je crois que moi, il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas dans ce film. Et je suis désolée, je suis un peu floue parce que le film m'a en fait beaucoup touchée. Et c'est assez rare avec les documentaires. J'avais pas vu le super documentaire dont vous parliez dans les tops aussi, là, Toute la beauté et le sang versé. Mais en fait, je trouve que là, c'est vraiment la force du film. C'est que, évidemment, il a un propos politique déjà dès le départ, parce qu'il filme une artiste femme, il filme ce que c'est qu'être une femme en tant qu'artiste. Léa Globe, elle connaissait pas Apollonia Sokol au départ. Elle parle de son propre point de vue, mais du coup, c'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est qu'à la fois, il a ce propos féministe dans son sujet, mais à la fois, il a son propos féministe dans sa forme, parce qu'en fait, la documentariste parle pour elle, parle d'elle-même, et en resituant son propos dans l'intime, je trouve que ça apporte une dimension au récit qui justement fait là sa force et qui moi m'a vraiment emportée. Elle se montre aussi, en fait, elle a une voix off, elle revient a posteriori sur ces moments, ça a aussi dû être un travail monstrueux de montage, parce que le documentaire souvent c'est ça, mais là en plus vous imaginez 13 ans de rush, enfin moi non personnellement. Je préfère.
J'ai pas le disque dur.
Non, c'est ça, exactement. Enfin, j'ai pas le temps, je. Non. Mais. Et puis, enfin voilà, en fait, ce truc de. Et j'ai été touchée parce qu'il va se passer des événements qu'on sait vrais. Et en fait, parce qu'on est dans cette intime de cet artiste-là, et ben on se sera attaché aux personnes aussi qui sont autour d'elle, parce qu'on la voit pas seulement elle, même si elle a effectivement une personnalité. Très exubérante, on voit aussi ses proches, etc. Et quand il arrive des choses à ses proches, en fait, le procédé même du documentaire qui se place si proche fait que nous, on est aussi très très attachés. Donc s'il leur arrive des choses, on est forcément touchés. Et moi, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça, ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce documentaire. Je suis un peu floue quand j'en parle, mais voilà, je vous encourage vraiment à aller le voir. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà bien assez parlé. Je ne sais pas qui veut prendre le relais.
Eh bien, puisqu'il faut que je fasse la méchante, je ferai la méchante. Moi j'ai quand même quelques réserves sur ce documentaire qui, sur le papier, avait tout pour me plaire. Mais je trouve qu'il y a un manque de point de vue qui est assez flagrant, dans le sens où on sent que... Léa Globe, elle a été totalement happée par le charisme d'Apollonia, et qu'en fait, je trouve qu'elle en fait une espèce de documentaire très... très élogieux d'une certaine manière. Et en fait, je trouve que le moment le plus intéressant du film, c'est quand un... Enfin, c'est pas un spoil, parce que, bon, enfin, je veux dire, on peut pas... Bon, bref, spoil documentaire, je sais pas si... voilà. Mais c'est un moment où son professeur des Beaux-Arts lui dit, ah, en fait... Enfin, elle sort d'un oral et on lui a dit qu'en fait, sa personnalité est plus intéressante que son œuvre.
Dans la bande-annonce, je crois.
C'est même dans la bande-annonce, voilà. Et moi, je trouve que, à ce moment-là, on touche à quelque chose de très intéressant. Et en fait, la réalisatrice a pas du tout creusé cette question-là que moi, je trouvais... vraiment passionnante, et en fait elle est restée sur quelque chose d'un peu plus de beaucoup plus classique et de beaucoup plus attendu sur comment cette femme qui a grandi machin truc dans un milieu artistique hyper militant, en fait elle découvre que le monde contemporain, spoiler, il y a de l'argent et des Américains pas sympas qui portent des jogging moches. Bon, voilà, j'ai envie de dire je trouve que c'était pas très pertinent, et je trouve que... Oula, j'ai positionné sur Costa, je suis navrée.
Moi aussi en panoramique, j'en ai partout.
Le jus
de la
reine.
Ça, les jus de la reine.
attendez, j'avais un truc à dire là. Non, en fait, on sent que cette Apollonia, en fait, c'est vraiment elle qui mène le film parce que c'est un personnage et qu'elle a, enfin, elle le dit elle-même, elle a grandi dans un théâtre, et en fait je trouve que la réalisatrice, elle n'arrive pas à nous montrer quelque chose qu'Apollonia ne voudrait pas qu'on voit d'elle, et en fait au final c'est juste un portrait très élogieux sur une femme qui est à l'opposé de la réalisatrice, parce que c'est vrai que la réalisatrice, quand elle fait la voix off, que je trouve pareil pas intéressante, qui arrive à certains moments, elle a une voix hyper douce, bon, le contraste des femmes super différentes, enfin c'est intéressant, mais je trouve que c'est vraiment tombé dans la facilité, et je trouve que c'est dommage.
Effectivement, j'en avais fait un coup de cœur parce que je l'ai vu la semaine où on a enregistré les tops, et il se trouve que je l'ai vu en présence d'Apollonia et pas de Léa Globe, qui était à ce moment-là à Los Angeles pour essayer de défendre le film pour qu'il soit aux Oscars, et ça n'a pas été le cas. Donc j'ai un souvenir en fait désormais qui est beaucoup plus flou, parce qu'en fait c'est très dense. Je pense que quand tu dis que le film ne trouve pas son point de vue, au contraire, justement, il a précisément un point de vue qui est un point de vue bienveillant, élogieux si tu veux, qui a un point de vue positif. Le film, de ce que j'entendais lorsque Apollonia Scholl a pris la parole à la fin de la séance, il a été en partie construit par Apollonia aussi, c'est vrai, notamment parce qu'elle a eu son mot à dire sur le montage, sur la façon dont les choses étaient racontées. Et je pense que tu as raison, en fait, il est porté par le charisme de cette personne dont a été enregistrée une existence extraordinaire avant même que les événements extraordinaires ne se produisent tous. Et je suis juste fascinée par cette espèce d'alignement des planètes ou de coup de dé qui a permis la capture de cette existence qui est un peu hors norme. C'est surtout ça, en fait, moi, ce que j'en retiens, c'est une espèce de film un peu fleuve et moi j'ai adoré me plonger et me laisser emporter par. Maintenant, voilà, je pense que t'as pas tort, il n'y a pas de point de critique sur sa personne. C'est un portrait et très très élogieux et bienveillant. Et je suis certaine que si Apollonia Scholl a des ennemis, ce qu'elle doit avoir, il ferait un portrait différent. Mais le procédé en lui-même, parce qu'en plus, tu l'as dit, la famille dans laquelle elle a grandi est déjà assez particulière, mais en plus capturée en vidéo un certain nombre d'événements de son enfance, de sa conception à sa naissance. et rien que ça, en fait. C'est, ça méritait d'être intégré dans un film sur sa vie, sinon ça aurait été bon. Donc, peut-être Arthur, toi, tu l'as vu ?
Ouais, et alors moi je vais plutôt te rejoindre et rejoindre Juliette. Moi j'ai aussi beaucoup aimé ce film. Après, assez bizarrement, moi c'est pas tant le personnage d'Apollonia qui m'a intéressé, parce que à vrai dire j'y connais, mais vraiment j'y connais rien en peinture, encore moins en peinture contemporaine, en art contemporain de base, je suis vraiment un incul, donc j'étais vraiment incapable de juger si ce qu'elle faisait était beau, bien, pas bien. J'en ai... Non mais... moi j'en avais aucune idée, mais je pense que l'intérêt du film était même pas était même pas son art, en fait, aussi bien qu'il puisse être. C'était plutôt moi ce que j'aimais, c'est la relation, en fait, qu'elle, les deux femmes, du coup, la réalisatrice et l'artiste, tissent petit à petit. Et finalement, l'œuvre d'art la plus intéressante, c'est pas celle que fait Apollonia, celle qu'elles construisent à deux à travers ce documentaire. Il y a un truc assez intéressant, on en a un tout petit peu parlé, Paul, avant d'arriver là, mais c'était tout le dilemme qu'a la réalisatrice à savoir quand est-ce qu'elle doit s'arrêter de filmer. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments, elle le verbalise même à un moment, elle dit « Ah là, je me serais arrêté de filmer », ou à des moments où on voit que c'est un plan qui pourrait être un plan de fin. En fait, la dernière demi-heure, voire même les derniers trois quarts d'heure, sont ponctués toutes les 10-15 minutes d'un plan qui pourrait dire que le film se terminerait là. Et elle va se poser constamment la question « Est-ce que si je m'arrête ici, j'ai une œuvre globale ? Est-ce que j'ai une œuvre qui a un sens ?» Et petit à petit, elle va avancer jusqu'à comprendre qu'en fait, c'est pas les cours, les événements qui vont lui permettre d'avoir une fin véritable, c'est à elle de décider à quel moment une œuvre d'art s'arrête. Et ça, c'est hyper intéressant. Et j'aime beaucoup le fait qu'à l'intérieur de ce documentaire, on voit la propre fabrication du documentaire, les propres questionnements qu'ont la réalisatrice à travers ce documentaire-là. Et c'est presque même le récit de la réalisatrice que j'ai trouvé le plus intéressant et qui avait besoin, pour exister de toute façon, d'avoir une personnalité hyper extravagante qu'est Apollonia Sokol. Et c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment comment se construit ce documentaire-là, qui en plus je trouve est bien réalisé, peut-être à la limite de la fin du documentaire, que je trouve qui perd en fait un peu toutes les petites trouvailles qu'elle arrivait à avoir au début au niveau du montage, qui était hyper, je trouve, audacieux et inventif au démarrage, qui se perd un peu à être plus classique vers la fin, que je trouve assez dommage, même s'il reste très très beau. Moi, il n'empêche que c'est vraiment un documentaire qui m'a beaucoup parlé, notamment pour ce qu'il dit de la réalisatrice plus que ce qu'il dit de la personne qui filme.
Oui, je te rejoins. Secondes, effectivement, quand tu parlais, je me suis rappelé m'être fait cette réflexion pendant le documentaire, c'est que le documentaire parle des artistes femmes par son sujet, mais également, lui, en fait, il questionne et il nous montre l'œuvre d'Apollonia Sokol comme l'œuvre d'une artiste femme, mais le documentaire en lui-même est aussi un questionnement sur les artistes femmes, parce que la réalisatrice elle-même se questionne, et du coup, ça fait aussi dialoguer le parcours de deux artistes via le documentaire même, ce qui est super intéressant. Voilà, c'est pour tisser un lien avec ce que tu dis.
Ben moi, je suis un peu plus froid que vous. Je suis peut-être plus proche de Margot. Je trouve que c'est un film qui est plein d'imperfections, qui est aussi puissant parce que vous l'avez suffisamment souligné. Le sujet est tel, c'était ce que tu l'as dit, Jeanne, ce coup de chance absolu de tomber au moment complètement innocent sur une personne pareille, de suivre un parcours pareil, d'avoir le fait que, paradoxalement, on n'arrive pas à croire que cette femme n'ait pas été déjà destinée pour les caméras, vu ce que ses parents eux-mêmes nous ont conservé et offert de son intimité la plus...
Bon, on va le dire pour les auditeurs, c'est
une sextape. Il y a une sextape de ses parents qu'il a pendant sa conception. Mais c'est intéressant, ça fait partie du sujet. Mais en fait, j'en suis ressorti un peu froid. Et est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi...
Non, Paul, moi aussi,
t'inquiète pas. Oh, merci Margot.
Ce n'est pas de ta faute.
En fait, déjà, Apollonia ne m'est pas forcément complètement sympathique, mais ça, c'est très personnel, je ne vais pas juger là-dessus. Mais plus largement, je trouve que le film est un peu, parfois un peu trop, un peu raté, n'arrive pas à traiter tous ces sujets avec la même égalité, a beaucoup de mal, par exemple, à parler de leur amie commune, Roxana, qui s'est suicidée. Et en fait, a posteriori, une fois qu'on repense au film, elle la filme comme une morte depuis le début, ce qui est compréhensible, c'est comme ça qu'elle le voit, mais c'est terrible de filmer quand on filme Apollonia avec autant de parlants, quand on veut parler de ce rapport des femmes, et elles ont construit aussi avec elle, parce qu'elle est là pendant toute la première partie du film, de filmer cette femme comme une morte et de la monter comme ça, parce qu'elle n'a pas été filmée comme ça, mais ça a été monté comme ça, et je comprends le point de vue qu'elle a, mais c'est bizarre quand même, et c'est quelque chose qui se ressent beaucoup et de plus en plus au fur et à mesure du film, qui peut être un point de vue, mais qui est...
Après, c'est le point de vue. C'est littéralement, oui, une femme qui est déracinée et qui, comme n'a plus d'emprise sur le monde qui l'entoure, petit à petit se meurt, en fait.
Oui, mais là, ils l'écrivent comme morte a posteriori, quand même. Ils préécrivent la mort d'une femme.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant dans un documentaire, c'est d'apporter un point de vue différent et influencé par le futur sur des événements passés.
Oui, bien sûr, mais là, je trouve qu'il lui donne pas vraiment de vie, du coup, parce qu'on n'arrive pas à un moment ou à un autre à comprendre, moi c'est mon ressenti, ces événements en fait passés. On a l'impression qu'il commence par la filmer comme une morte. Et comme on ne se détache pas de ça, elle perd de son existence, cette femme. Et ça fait partie aussi des sujets, c'est qu'il y a plein de gens qui disparaissent comme ça à la gloire d'Apollonia, ce qui n'est pas grave, c'est un film sur Apollonia, et de la suivre comme ça n'est pas forcément inintéressant, mais du coup, on perd certaines choses. Il y a certains effets de mise en scène dont je ne suis pas complètement fan. Les miniatures, moi, je trouve ça un peu
quoi. Vu et revu, ouais. Quoi.
Vu et revu et un peu grotesque.
Il n'y a personne qui est convaincu dans cette salle.
J'avais oublié.
Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais je vous rejoins sur plein de choses. Il y a plein de choses qui sont très belles. La réalisatrice, quand il lui arrivait quelque chose pendant ce tournage de très très grave, pendant la naissance de son premier enfant, et elle en parle d'une façon qui, je trouve, est très puissante. Et elle arrive aussi à intégrer ça à son récit, à la violence, finalement, qu'elle a subi elle-même au fur et à mesure des années. Mais comme Juliette est un peu floue, je reste un peu flou, parce que j'en sors en me disant
J'ai l'impression que si le c'est terrible à dire d'un documentaire, mais que si le sujet n'était pas là, je ne serais pas aussi... ça ne veut rien dire en parlant de documentaire, mais il n'y a bien, en définitive, que le sujet qui m'attrape jusqu'au bout dans ce récit.
Si le film n'était pas là et que je n'étais pas dans la salle de cinéma,
voilà,
et
c'est
je
un
peux
peu
vous
ça.
Dire que ça se passerait pas
non,
pareil.
Mais il y a... C'est, en fait, c'est un tel coup de chance, ce film... Que,
c'est pour ça que vous pouvez aller le voir.
Voilà, vous pouvez aller le voir comme ça, mais que.
Il n'y a pas de traitement artistique.
Il n'y a pas de traitement artistique derrière,
c'est
un vlog.
C'est intéressant, oui, c'est ça.
C'est un vlog de 2 heures.
D'ailleurs, la réalisatrice, enfin, moi je suis allée à l'avant-première mardi soir et la réalisatrice a été là et elle a expliqué qu'elle avait souhaité filmer une vie, filmer des moments de vie. Enfin, je suis désolée, Léa, mais bon, c'est le principe du cinéma et du documentaire, quoi. Enfin, c'est filmer la vie, mais sauf que la vie, enfin, je veux dire, tu la prends. Enfin, la vie, c'est tellement complexe. Enfin, évidemment que t'as un. Faut avoir un angle, quoi. C'est... Et là, en fait, je j'ai pas trouvé d'angle. Et puis, en fait, Apollonia, oui, c'est ça, en fait. C'est qu'elle est, elle est née pour les caméras, elle est faite pour ça. Et du coup, t'as l'impression de d'assister à un espèce de documentaire où elle se met en scène elle-même. Et en fait, c'est pas. Enfin.
Oh, attends.
C'est pas si intéressant que ça,
quoi.
Non,
moi, je suis. Ouais.
Je rejoins pas forcément là-dessus. Je pense que t'as effectivement raison. Le film pourrait mériter d'avoir un angle. Plus fort. Moi, je pense qu'il faut aussi rappeler que donc, quand Léa Globe commence à filmer, elle est elle-même...
Elle a 17 ans, je crois.
Elle a 20 ans.
Ouais.
Elle est étudiante et elle est censée faire un portrait court pour un de ses cours de cinéma. Donc, je pense que le fait que ça manque d'angle, il s'explique aussi par cette espèce de recherche, je pense, sur plusieurs années de, en fait, pourquoi je filme. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre raison que je filme parce que j'ai Apollonia devant moi. Et c'est ça aussi, l'angle, en fait.
Oui, et ce que tu dis, c'est intéressant sur le fait qu'elle commence en école de cinéma. Moi, ce que j'ai trouvé plutôt beau dans ce documentaire, c'est qu'on a vraiment deux artistes qui se tendent un miroir l'une l'autre et on a l'évolution technique, artistique de comment elle s'appelle, Clara
Léa Globe.
Léa Globe, on voit vraiment, on la voit évoluer artistiquement. C'est-à-dire qu'au début, Arthur, tu disais que tu préférais le début, mais en tout cas, qu'on préfère le début ou la fin, on peut s'accorder pour dire qu'il y a vraiment une évolution technique. Et sur 13 ans, c'est normal, même au niveau des caméras qu'elle utilise, etc., c'est pas les mêmes du tout du début à la fin. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce documentaire, Margot, tu l'as mentionné, c'est quelque chose qu'on voit dans la bande-annonce quand elle dit « Le fait est qu'il préfère ce que je suis à ce que je fais ». Moi, je trouve que c'est un questionnement, alors peut-être pas novateur, mais en tout cas toujours très pertinent sur le fait d'être un sujet et non pas un objet en tant que femme créatrice. Et je trouve que c'est super bien traité dans ce film parce qu'on a une Apollonia qui effectivement se retrouve à être l'objet d'une autre œuvre d'art qui est le documentaire qui est en train d'être filmé et qui, elle, ne parvient pas en fait à être autre chose dans sa propre création qu'un objet et qui se retrouve par ailleurs objectifiée par cette partie très intéressante que j'ai trouvée qui se passe aux États-Unis, ce collectionneur américain qui a une vision de l'art.
Le Satan,
le Shaitan de l'art contemporain.
La scène incroyable où Harvey Weinstein est mentionné alors que ça a été filmé pré-MeToo
ouais.
Et qu'il y a un type qui dit fais attention.
Très intéressant cette fuite. Moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant cette fuite vers les États-Unis parce que c'est là où je viens au second aspect du film qui m'a intéressé, c'est la possibilité de trouver sa place dans la société de manière générale en tant qu'artiste parce qu'elle naît dans un théâtre au Bateau Lavoir dont elle est expulsée pour des raisons financières, elle va se retrouver dans un petit appartement machin, elle va au Danemark, ça lui plaît pas parce que en gros elle déteste la bourgeoisie, on sait ce qu'elle dit de manière assez violente d'ailleurs. Elle trouve pas sa place du tout dans cette société, elle se retrouve à un moment à discuter avec sa grand-mère qui lui demande pourquoi elle veut, enfin où elle a une discussion sur le fait qu'elle ne veut pas, je cite, se poser et fonder une famille. On voit qu'il y a vraiment un questionnement sur la place qu'elle veut occuper dans la société et je trouve que c'est très intéressant qu'elle fuit vers les États-Unis. Elle parle d'elle-même d'un inconnu, de quelque chose d'une extrême liberté, etc. et qu'elle se retrouve en fait dans cet espace d'extrême liberté avec d'énormes guillemets, encore une fois incapable d'être un sujet créateur et que c'est en fait le sujet créateur, on se rend compte de manière plus ou moins subtile, c'est vrai, mais on se rend compte en tout cas que c'est la réalisatrice et que Apollonia est avant tout un corps filmé. Et est-ce que, enfin moi la question que je me suis posée tout le long du film, c'est est-ce que ce corps filmé peut pas en fait aussi être un corps qui crée, qui fait des choses, etc. Donc moi j'ai trouvé que c'était un questionnement en fait beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, enfin des questionnements beaucoup plus subtils qu'il n'y paraissent. Et moi, par contre, le personnage d'Apollonia ne m'a pas du tout été sympathique, enfin ni même charismatique. Je trouve pas que ce soit un personnage extrêmement charismatique. Au contraire, je trouve que on sent vraiment qu'elle veut très fort être une artiste, mais qu'elle a du mal à l'être. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'intéresse très peu à son œuvre. Moi, j'ai pas trouvé que ce soit un personnage aussi fascinant que ça, en fait.
Alors moi, j'ai trouvé fascinant, mais effectivement, enfin, vous disiez dans vos reproches que on en faisait trop l'éloge, etc., et que, enfin, évidemment, moi, dans la vraie vie, je pense que, enfin, honnêtement, déjà, jamais j'aurais eu son parcours, mais de toute manière, j'aurais pas été amie avec elle, etc., en tant que personne. Non, mais soyons clairs. Enfin, je me suis dit ça pendant le film, mais c'est pas grave. Enfin, c'est ok d'être, parce que en fait, j'ai été aussi moi-même fascinée tout en voyant, et parce que vous le dites bien, Paul et Margot, vous dites bien même si la caméra la filme de manière super élogieuse, elle vous paraît désagréable en vrai, mais pour moi, c'est pas forcément un...
Moi, je n'ai pas dit qu'elle me paraissait désagréable.
Il n'y a que moi qui ai dit ça.
Ah, ok. J'ai cru, en tout cas, et pour moi, justement, c'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est ce truc de dire, ok, elle me fascine, il y a un truc... Enfin, moi, je... pas nécessairement du charisme, parce qu'on voit effectivement qu'elle cherche absolument à être ce qu'elle veut être et qu'elle se cherche énormément jusqu'à la fin. Enfin, même à la fin, elle se cherche toujours, en fait. On voit aussi qu'il n'y a pas de fin et que ce que tu disais, Arthur, aussi, c'est une quête perpétuelle, etc. Mais en tout cas, c'est ça que je trouve intéressant, de pouvoir accéder à l'intimité d'une personne que... un, jamais eu accès, et deux, mais auquel si j'avais eu la possibilité, je pense que j'aurais pas voulu, parce que ça va aussi être irritant d'être à côté d'elle, de... Non, mais c'est vrai.
Elle a l'air pénible un peu quand même dans la vraie vie.
Oui, il faut le dire, et en même temps, elle a quelque chose de fascinant, et moi, je trouve ça fou que le cinéma nous permette ça, et je trouve que Valentine t'en parle extrêmement bien de quand on... d'un corps agitant, etc. Enfin, c'est... Ouais, je trouve que... Bon, c'est un film super intéressant. Voilà, vous êtes...
À la 1, à la 2, à juger 22. sur ces notes finalement très positives, en fait, même les moins positives d'entre nous, en fait, vous diront que c'est quand même un sujet intéressant, même si le documentaire est peut-être un peu en deçà du sujet. Et on a raison d'ailleurs. Mais dans l'état, on vous le conseille quand même, surtout qu'il n'est pas tant distribué que ça. Vous pouvez aller au Reflet Médicis. Pour citer une salle au hasard, voilà, vous avez le choix. Et on enchaîne sur les chaînes du troisième film, un film qui fait réfléchir à la société moderne, à l'État et aux dangers de la vie, à qu'est-ce que c'est que d'avoir les mains dans le cambouis et de cambouiser face à l'anarchie et à la violence, peut-être un film marxiste lui aussi. Et évidemment, je parle de Pas de vague, et pour nous le présenter, le spécialiste absolu du marxisme dans les salles de classe, Arthur.
Il est parmi nous
ce
soir.
Je vous ferai ma petite analyse marxiste, vous inquiétez pas. Pas de vague, et du coup un film réalisé par Teddy Lucie Modeste, scénarisé par Audrey Diwan, qui, je sais pas, elle scénarise moins bien qu'elle réalise, on va dire, et inspirée du coup d'une histoire, ouais, ça c'est intéressant. Et on va suivre un professeur de français au collège, interprété par François Civil, qui se retrouve dans la tourmente après qu'une élève...
C'est déjà drôle, genre le prof de français a incarné...
Ah mais...
Interprété par François Civil, qui se retrouve dans la tourmente après qu'une élève l'ait accusé d'avoir tenté de l'avoir séduit... Tenter de la séduire. S'ouvre alors une phase d'enquête où les issues vont petit à petit se refermer devant lui. Qui sait qui veut en parler? Jeanne.
Je suis la dernière à l'avoir vu car je suis arrivée en retard pour l'enregistrement. J'ai vraiment tout en tête cette fois-ci. Dommage pour le film. Je n'ai rien oublié. Je pense que peut-être le débat qu'on va avoir va porter sur le propos du film avant tout. Donc je vais me permettre quelques considérations formelles. Moi, ça me va. Je suis pas fan.
Eh ben, je suis déjà en désaccord. Je trouve que formellement, c'est minable aussi.
Non, c'est pas bon. Mais je m'attendais honnêtement à pire. On a des plans qui sont assez remplis.
Ouh.
Ils sont rythmés. On a ces espèces de dissolu, de fondu au blanc ou noir qui témoigne de la perte de repère du personnage. On a un montage assez rythmé.
Tu l'as déjà dit, t'as déjà fini avec les...
Et en plus, c'est pas vrai.
Et des fondus au blanc.
Ils sont si moches, les fondus au blanc, putain.
C'est pas ma cam, mais honnêtement, ça pourrait être pire. Là, au moins, il y a une espèce de signature visuelle.
Je suis déjà en désaccord.
Ah oui, les zooms avant.
Les zooms avant.
Par exemple, voilà, tout pour me poser un un cadre un peu oppressif et de plus en plus hors sol.
Hors sol, c'est bien le mot.
Hors sol. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est toujours de façon assez formelle. Je trouve que les progrès civils jouent extrêmement mal. C'est pas nouveau pour moi, mais là, c'est vraiment, ça crève l'écran, quoi. On dirait un golden retriever d'1m78 et ça s'arrête là. Enfin, vraiment, à un moment donné, il boit avec une tasse non, sur laquelle il y a un golden retriever. Je pense qu'il nous fait exprès. Car, c'est une picture. Je trouve que ces espèces de tremblements, quand il se met à pleurer, me donnent envie de taper ma voisine.
La scène, il y a une scène dans le climax avec, où une révélation, une dernière révélation se fait par une acte. Et vraiment, il y a un plan de 30 secondes de François Civil en train de trembler en pleurant. Oh là là. Avec un zoom avant, et ça c'est le cinéma, ça c'est le vrai cinéma. Il y a toute l'émotion, toute la puissance. Il est renfermé comme ça, un peu comme la tortue là, un peu comme Benjamin la tortue. Non, pas Benjamin. Franklin la tortue.
Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin la tortue, renfermé comme ça, prêt, tout en intériorité, mais pour qu'on comprenne l'intériorité, il s'est mis dans une position de demi-cercle, pour qu'on comprenne qu'il y a quelque chose à l'intérieur du cercle. Voilà, voûté, c'est...
Donc, ça c'est vraiment pas terrible, et je pense que sur le propos, mes collègues vont très bien, sans doute mieux que moi, en parler, ce qui me pose principalement... Enfin, le film parle d'un homme accusé à tort, c'est son parti pris. Il y a une accusation infondée qui est émise à son encontre par une étudiante, une élève. Moi, je trouve que ce que montre ce film, mais il a l'air de ne pas se rendre compte que c'est ce qu'il montre, et donc c'est un problème parce que ça pouvait être intéressant, c'est l'échec successif de tous les adultes à recueillir la parole de qui que ce soit. Parce que le film commence quand même avec une élève qui écrit une lettre où elle parle du fait qu'elle a des sentiments que son prof de français la drague, et qu'est-ce qu'on fait? On la convoque dans un bureau avec le prof à côté pour lui demander de parler, et quand elle refuse, on appelle son frère violent. Enfin, c'est comme c'est ça super. Que ça commence, et après on passera notre temps à défendre le professeur contre elle, alors que l'échec vient dès le départ des adultes dans la pièce. C'est montré, c'est intéressant, c'est pas ignoré, je pense, par les réalisateurs et scénaristes, mais malheureusement ça va pas être leur propos, et je laisse la parole si d'autres veulent réagir là-dessus.
Mais tu l'as dit, c'est d'un film sur des adultes dans la pièce, sauf qu'aucun d'entre eux apparemment n'est écrit comme un adulte, parce qu'on suit un drame qui est plutôt de l'ordre d'un collège de CM1. On a notamment une relation entre François Civil, qui, comme vous le savez peut-être de la bande-annonce, est homosexuel. Et c'est très important parce qu'il ne veut pas en parler. Il est tout en intériorité dans son homosexualité. D'ailleurs, il est tellement en intériorité qu'il n'y a pas une once d'intimité entre lui et son compagnon.
Vraiment, c'est chaud.
À un point où. Et le dialogue, parce que tu parlais de problèmes formels, mais il y a un autre problème formel, et ça vient directement de notre bonne amie Audrey, c'est que le film est écrit avec le cul. Bon, bref, le film est écrit n'importe comment, et les dialogues, notamment les dialogues intimes entre les personnages, sont écrits avec la distance de... Bah, on parlait d'IA, de ChatGPT à peu près. Il y a une scène géniale où François Civil, dont on comprend qu'il commence à être très affecté par cette histoire de diffamation à son égard, lui qui est un bon professeur qui tient à ses élèves, et qui a été injustement accusé. Injustement accusé. Vous savez que c'est inspiré d'une histoire vraie, celle du réalisateur.
C'est pas vrai.
Sûr que si, ouais, si.
Il était prof, incroyable. Avant, je crois.
Il était prof de lettres. Et il était prof de lettres à Aubervilliers. il était effectivement prof de lettres à Aubervilliers. Et il va voir son compagnon et il lui dit : tu es encore en train de regarder des vidéos de chats en train de faire des. en train de jouer. Avec, je sais plus ce qu'il dit exactement.
En train de jouer de la trompette,
ou alors c'est un rat qui fait des bruits marrants.
Et en fait, son compagnon, c'est Gabriel Attal.
Et après, il pose tranquillement sa tête avec la lourdeur robotique d'un chien qu'on vient de castrer, et, pour reprendre la métaphore de Jeanne, et il se pose sur son compagnon, et il regarde l'écran, et il rigole un peu avec un sourire qui fait ha ha. Et après, il y a un long fondu en noir alors qu'il s'endort, apaisé, j'en suis sûr. Enfin bon, le dialogue est terrible, la mise en scène est abominable, et effectivement, tu l'as dit, le propos est catastrophique et il n'est pas aidé par le fait que les adultes sont écrits comme des enfants. Et donc je reviens à l'intérieur de comme des enfants bêtes, et je reviens en haut de ma matrioshka. Il y a une histoire de romance ratée
avec une de ses collègues qui se termine par un long monologue qui dit « Peut-être que tu veux juste être désiré avant de partir tout triste dans ce... » Ces gens sont profs, ces gens travaillent avec des élèves. Enfin, on n'arrive pas à y croire une seule seconde. Et c'est dramatique parce que du coup, ça reflète aussi les enfants qui servent tous plus ou moins une métaphore. Chaque enfant a un propos. On peut plus ou moins imaginer la catégorie socio-professionnelle. On parlait de la salle de classe il y a quelques semaines et du fait qu'il y a tout un tas de métaphores. Ça, je laisserai Arthur le réexpliquer. Mais là, il y a la version beaucoup plus explicite et beaucoup moins subtile de ça parce que chaque élève est précisément une catégorie socio-professionnelle exacte, et en plus je peux la lire et ça ne sert à rien parce qu'ils ont tous un petit art qu'on les fait avancer, et comme dit François Civil, c'est pas ta faute, c'est la mienne, je vois bien que j'ai pas pu te transmettre tout ce que j'aurais pu t'avoir, lui victime de tout, enfin c'est...
Je reviens là-dessus d'ailleurs, à un moment donné il dit donc cette phrase à une élève supposément méchante parce que c'est celle qui aurait entraîné
le harcèlement
victime. Quand il dit cette phrase, je vous dis, je m'en souviens très bien, je l'ai lu à l'instant, il dit je te répète ce que je t'ai déjà dit. Enfin, il emploie le mot répéter. Or, pour moi, il n'y a aucun moment précisément dans le film où il ose faire un travail de réflexion sur pourquoi peut-être une élève a pu mal interpréter ses agissements. Aussi innocent soit-il, je trouve ça quand même curieux de penser qu'une personne accusée à tort ne se pose pas une seule seconde la question de qu'est-ce que potentiellement j'ai à voir là-dedans, à tort ou à raison. Mais c'est quand même, c'est toute une partie qui me manque parce qu'on passe de « je suis accusé à tort » à « je suis seul contre tous, innocent » et il n'y a aucun chemin de réflexion du point A au point à la fin du film. En fait.
Et les méchants profs qui veulent négocier avec les élèves et les parents d'élèves alors que lui, il sait ce que c'est la vérité. Et tu l'as dit, ce qui est terrible en fait, c'est que c'est un film sur l'éducation où les élèves sont les méchants. Et non ironiquement, les méchants. C'est pas juste une réflexion sur le rapport de présence. Comme il n'y a aucune remise en question du personnage de François Civil qui fait connerie après connerie et qui se met en guerre contre tout le monde pour aucune raison, en fait, la vérité, c'est que les élèves sont juste méchants. Les élèves ont tort, le prof a raison. Point. Et c'est un abominable message à donner pour n'importe quel film, mais spécifiquement celui-là.
Oui, mais je trouve que justement, il y a un truc vraiment qui est mal fait dans le scénario, c'est que c'est vraiment Psychologie Magazine, quoi. Parce qu'ils sont pas méchants parce qu'ils sont méchants, Paul, en fait. Elle est méchante parce qu'elle a pas reçu l'attention dont elle avait besoin. Ah mon dieu, mais c'est Biba quoi. Qu'est-ce que tu me dis?
Je peux te réparer.
Non mais enfin tous les, ils ont aucune épaisseur, aucun des élèves n'a de l'épaisseur, mais même celle qui porte plainte en soi. Enfin oui, du coup lui il comprend pas. Il comprend pas, il veut pas comprendre. Et puis tout le film il comprend pas. Bon d'accord, mais il a rien compris. Bah c'est bon. Ok, on ne cherche pas à comprendre. Alors bah c'est pas intéressant. Et puis oui, du coup on nous fait un peu comprendre de manière plus ou moins subtile qu'elle n'existe pas en fait, ni dans sa famille ni dans la classe, parce qu'elle est exclue par les autres filles. Du coup, elle va tenter d'exister en portant plainte. Bon, c'est encore une fois vraiment Psychologie Magazine, quoi. Enfin, je veux dire, c'est nul. Et puis, bon, je vais faire un peu le même reproche que j'avais fait pour la salle des profs, mais bon, enfin, ce ne sont pas du tout les mêmes films. Hein. Mais un personnage principal qui est un prof qui veut bien faire et qui juste est gentil, quoi. N'a aucune aspérité, bah ne fait pas un bon film, enfin juste on se fait chier au bout de 20 minutes.
Mais il va être le professeur qui pourra changer la vie d'un
oh là là. C'est ça, tu veux qu'on te casse les genoux, c'est ça, hein? Vraie scène très intense. Ah. Oui, vas-y.
Non, je suis entièrement d'accord avec vous, et vu que vous en avez déjà plutôt bien parlé, moi je voudrais juste revenir sur des scènes auxquelles je pense régulièrement dans le métro. Et il y en a deux. La première, c'est François Civil qui est donc bodybuildé comme Jaja, alors qu'il est prof de français.
Ah oui,
hein, je vous le rappelle, voilà, donc déjà c'est hyper cohérent. Et il y a cette scène où il est dans la cour de récré, et il lit la chartreuse de Parme. Et c'est, mais on dirait qu'il lit Martine à la plage. Enfin, on dirait qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. Enfin, c'est
les
mimes,
Margot, les mimes sont interdits. Hein.
Et tu oublies de dire qu'après il se prend un ballon dans les lunettes et ça lance un arc narratif entier avec un fusil de Tchekhov.
Vous pouvez pas me taper, j'ai des lunettes.
Le ballon, voilà. le ballon à la fin, la morale du film, c'est que le ballon reste sur l'étagère.
Voilà, il a pas rendu le ballon, ouais, je suis pas cool. Aspérité. Et non, et ensuite, moi, un truc qui m'a vraiment choqué au-delà de tout le propos qui est effectivement très discutable et vraiment de l'ordre de Psychologie Magazine, tu l'as très bien dit, Costal, c'est le manque. Je crois que j'ai rarement vu un film avec aussi peu d'alchimie dans un couple,
ah, c'est
quoi.
Terrible.
C'est mais abyssal. Et vraiment. Mais moi, je. Mais quand il masse le mollet de François. Non, c'est c'est le max de la tension érotique. Enfin, en vrai, moi, je soupçonne. En vrai, je vais vous le dire. Moi, je soupçonne des Roland d'homophobie. C'est pas possible parce que le seul moment où ils ont un geste de tendresse, c'est quand ils s'embrassent et c'est filmé avec une espèce de contre-plongée. En fait, leur visage se cache mutuellement.
Il y a grave moyen que ce soit pas les acteurs, tu sais.
Enfin, mais vraiment.
C'était peut-être dans le contrat de François Civil. Ils voulaient pas. Non, mais...
Ça se voit tellement. Enfin,
s'embrassent à la Pologne, en fait. C'est ça.
Il y a juste une vidéo où on les voit danser, dont mais ils sont tellement fiers qu'on la voit à la fin dans le générique. La grande vidéo de danse de François Civil.
Mais surtout, voilà. Le moment où il est avec son petit t-shirt noir. En mode, on regardait comme il est habillé comme un homosexuel. c'est en mode, non.
Au cas où on n'est pas compris.
C'est hyper maniéré, mais de manière tellement caricaturale.
Ah, c'est dramatique.
Enfin, voilà, non, mais qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? J'ai passé un très mauvais moment. C'était très long, c'était vraiment affreux, pas intéressant. Et puis François Civil, je suis désolée, mais qu'on lance une pétition pour... qu'on ne le caste que dans des rôles d'animateur de colo slash le pote un peu con un peu marrant et c'est tout quoi. Enfin là c'est pas possible, il joue mal.
D'ailleurs j'avais vu une critique qui commençait par François Civil virgule brillant dans ce rôle à contre-emploi. Et voilà juste
parce que les critiques sont, moi j'ai un peu regardé
les critiques sont étonnamment bonnes,
ouais.
Non mais parce qu'en plus je rejoins, rajoute un autre truc sur la mise en scène parce que je suis pas d'accord avec toi là-dessus Jeanne, je trouve le film chiant comme la pluie, je trouve le film monté sous antidépresseur. Oui, il pourrait être plus chiant, mais c'est un thriller quand même, c'est abominable.
Mais avec le texte qu'ils ont, la façon de faire, c'est impossible, le mauvais jeu, enfin, tout ça combiné, je me dis
Non mais là c'est le radeau de la méduse.
Au moins il y avait un directeur de la photo quelque part. Tu
non, il n'y avait pas de directeur de la photo, sinon ils ont interdit cette espèce d'angle hollandais à la fin là pour créer la tension.
C'est du niveau de petit secret entre voisins.
Ouais, à peu près.
C'est
ouais.
Où tout a basculé. Ma fille se fait draguer par le prof de français.
Non, non.
Accusé à tort, machin. Mais vraiment, c'est de ce niveau-là.
J'ai vu des épisodes de Commissaire Maigret mieux écrits, mieux filmés et mieux joués. Et au pire, on avait peur que ça soit une espèce de brûloréac, mais c'est même pas ça. C'est un film qui ne justifie pas. C'est de droite, mais c'est pas un brûloréac, quoi. C'est pas CNews.
C'est vrai qu'il manquait un truc un
peu.
Il
manquait l'expression décivilisation, il manquait islamisme, il manquait. Une intervention du rectorat qui soutient les. Il manquait tout, tu vois, tous les critères vraiment CNews. C'est que c'est même pas suffisamment raciste pour qu'on puisse lui cracher dessus là-dessus. C'est juste sans intérêt et Psychologie Magazine. C'est biba, on se torche le cul avec, grosso modo.
Non, mais alors.
T'es très torché le cul là.
Je sais pas pourquoi, je suis dans mon stade anal de ma pensée là.
Mais alors, honnêtement, quand tu dis que c'est pas un brûloréac, moi je vais quand même aller dire que c'est quand même.
Ah, c'est très à droite.
Un brûloréac. Parce que. Et alors, ça du coup, je le savais pas, que du coup, et je suis allé vérifier. En effet, c'est bien l'histoire du réalisateur. Et ça me met hyper mal à l'aise qu'un mec fasse un film pour qu'ils disent qu'il n'est pas coupable, que genre une élève l'ait accusé. Enfin, c'est hyper cringe, tu vois. Je vais pas me prendre un procès en diffamation. Ça se trouve, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment eu le dénouement qu'il y a à la fin du film. Parce que voilà,
on en parle du dénouement. Parce que le film se termine nulle part.
Il est obligé de rajouter une scène.
Il est obligé de rajouter une scène à la fin
pour terminer le film d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Et c'est vrai, il y a vraiment un prof qui dit pas coupable, je vous jure, j'ai pas touché. Tu vois, enfin, c'est hyper limite. Et ça, j'avais pas ce sous-texte-là pendant le film, du coup. Donc, bon, je le prenais moins à cœur. Alors, justement, j'ai un peu une petite vibes, film de prof et tout ça, qui traîne. Et là où, si on veut refaire le parallèle avec la salle des profs, parce qu'en fait, globalement, ça a le même sujet. Ouais. C'est-à-dire que c'est...
La lutte des classes.
C'est le professeur qui est abandonné par sa hiérarchie et en même temps voit les élèves se retourner contre lui et comment il peut maintenir son autorité machin. Et là où la salle des profs avait l'intelligence de partir sur un élément déclencheur qui était pas grave, c'est-à-dire se faire tirer 10 balles, ce qui est rien du tout au fait, et ce qui permettait à ce qu'on ait plutôt un point de vue un peu neutre. Là, il part sur un prof qui veut séduire une élève. Et le film, il te dit, oh, mais c'est pas ça le sujet, vite, je vais te parler de comment François Civil il va être déprimé et emmerder tout le monde. Alors qu'il dit, mais non, attendez, il y a un putain de prof qui veut peut-être potentiellement coucher avec une élève. En plus, le film est entièrement tourné à la première personne, c'est-à-dire qu'on voit que le point de vue de François Civil. Même dans les flashbacks où il nous raconte l'histoire, où il se passe au kebab et tout ça, où genre... Si ça se trouve, en fait, même le film te dit peut-être que ça se trouve ce que tu vois est faux et qu'il l'a vraiment dragué et qu'il a vraiment été insistant. Et je me dis, mais c'est fou.
Non, parce qu'il est gay.
Non, mais oui, mais
c'est pas possible, en fait.
Bah, parce que ça, c'est vraiment le réel. Non, mais c'est hallucinant. Et c'est écrit en plus avec des sabots qui sont ignobles. Moi, vraiment, mon empire romain à moi de ce film-là, c'est la scène où, apparemment, la fille lui dit que. Oh là là, il m'a dit qu'elle était fraîche. Et il y a François Civil qui répond : oui, mais je parlais de l'eau.
Ils ont jugé bon de le mettre dans la bande-annonce. Quoi. Ouais, donc,
dans la bande-annonce, il n'y a que les 10 premières minutes.
Mais je me disais,
film,
en plus, dans la bande-annonce, la scène, j'aurais été mal découpée du truc. Et non, c'est littéralement ça le dialogue. Non, j'ai éclaté de rire. Je trouve que c'est tellement pété avec François Civil qui.
Dans ce moment
féministe
qui critiquait la bande-annonce
sur l'actualité
Pétrovia. D'accord, ok, cool. On va faire comme ça.
Cette bande-annonce, j'ai l'impression.
Mais je suis pas sur TikTok, moi, donc j'ai du mal à suivre ces trends-là.
Ouais, c'est sur Instagram, moi j'ai pas TikTok non plus. Bon, bref, on s'en fiche, mais la bande-annonce de ce film a fait un bad buzz, en tout cas dans le milieu féministe, parce que du coup, Camille et Justine, qui sont deux humoristes qui font des vidéos, on s'en fiche. On fait une petite vidéo sur Instagram pour dénoncer, à partir de cette bande-annonce, pour dire depuis quand en 2024 on fait des films sur un gentil prof avec une dictateur par une très méchante élève. Cette bande-annonce, j'ai l'impression qu'elle a été faite pour attirer tous les gens réac vers ce film. Et le pire, c'est que pour avoir vu un peu des chiffres, le film marche bien au box-office.
Mais en tout cas, ils ont bombardé avec les affiches et tout, et François Civil partout.
Et quand
François Civil aussi.
François Civil.
Mais... François Civil pétable ou pas?
Arthur Pahoua.
Non, si quand même.
On connaît ta relation avec François Civil.
Elle est compliquée depuis qu'il est de droite.
Non mais il est de droite.
Il a l'air
con quand même, mais c'est pas un problème.
Oui, mais il parle pas. Moi j'aime bien, voilà, c'est bon.
Tu le bagnoles, tu trouves. Enfin, je.
Parce que tu regardes du porno, toi.
Oh putain, oui. Oui. Ah, mais c'est hyper cringe. Mais le mec, mais à 10 000 à l'heure,
le truc le plus inapproprié que tu puisses faire de la
c'est incroyable. En fait, un moment, le prof, il apparemment, en fait, parce que les élèves sont méchants avec lui. Et à un moment, il y a une élève qui.
Mais ils sont même pas méchants, plus la moitié de la classe le soutient pendant tout le film, c'est incroyable.
Mais c'est vraiment, en fait, le truc, c'est qu'à un moment, pendant le film, en fait, il y a un moment, une élève qui, alors que le professeur, du coup, soupçonnait, etc., va noter tous ses faits chez Zest. Et à un moment, l'élève dit il se mord la lèvre comme un acteur porno. Et t'as François Civil qui prend le carnet à ce moment-là et qui dit ah oui, mais si tu dis ça, c'est-à-dire que t'as déjà vu des films pornographiques. Et il commence à parler porno avec des élèves de 3ème. Et le problème du film, c'est qu'il a pas le film n'a pas conscience que quand François Civil fait ça, c'est pas bien. C'est pas, il a pas d'être ça, tu vois. Et le film te dit littéralement ça.
Mais tout va bien parce que tout va bien parce que après, quand un autre élève la traite de pute, il dit non, tu t'excuses à ta camarade.
Mais c'est le printemps républicain, ce prof.
De toute façon, le vrai problème, c'est que c'est bourré de
fautes d'orthographe. Tu oublies que la phrase après c'est bourré de fautes d'orthographe, c'est et ça, c'est ta faute et la mienne.
Blame it on me.
Et moi, je pense que c'est tout le truc, il est là en fait. C'est que ça pourrait être très intéressant d'avoir un film sur un mec qui serait accusé à tort. Je veux quand même déjà me poser la question sur est-ce que c'est le bon timing pour faire ce genre de film là. Et quand non, et quand
il y a
bien
pas
même
de bon timing pour
si
ce film.
Et quand bien même si tu voudrais traiter ce sujet là qui peut être très intéressant au cinéma, moi j'ai pas de problème avec un film qui pourrait me déranger. C'est pas de ce point de vue là qu'on fait le film. Si tu veux avoir un point de vue nuancé sur un mec qui est peut-être accusé à tort, faut que avant tout tu sois sûr et certain qu'il n'ait pas dépassé les limites. Or, le film te dit, mais non, il n'a pas dépassé les limites, et même les limites qui sont vraiment dépassées, du style inviter tes élèves au kebab, c'est une limite. Enfin, vraiment avoir des relations avec tes élèves en dehors de la salle de classe, c'est une limite en tant que telle. Et le film dit, mais non, mais c'est très bien, mais un vrai prof, le prof qui change la vie des élèves, il doit faire ça. Mais c'est honteux d'avoir un film qui est à ce point-là, à côté de la plaque. Je pense qu'il se plante beaucoup dans ce qu'il veut dire, qu'il n'avait pas ce propos-là de base. Et en même temps, plus j'avance et plus je me dis qu'il y a quand même un propos vraiment nauséabond. Et qui ça n'a pas l'air de trop le gêner, et mention spéciale encore une fois, oui, au traitement de l'homosexualité de François Civil, qui est hallucinant et qui a le droit avec une des. On n'en a pas parlé de la scène où.
La scène du dîner.
Non,
elle est formidable, la scène du dîner. Parce qu'en plus, d'avoir aucune intimité avec son compagnon d'aucune sorte, il est odieux avec à chaque fois qu'il le croise. Au dîner, il est ignoble. Mais tu comprends, le mec l'a pas quitté sur le coup.
La seule dispute qu'ils ont, il est obligé d'attendre d'avoir des gens face à lui et il tacle.
Mais c'est pas
copain.
Une dispute, juste il lui hurle dessus et l'autre part. C'est horrible.
Mais même, le pire, c'est aussi le truc avec la prof qui tombe amoureuse de François Civil.
Oui,
et,
mais la fameuse.
Mais c'est le dialogue qu'ils ont quand
même. Être désiré.
Non, mais c'est ça, le dialogue qu'ils ont là à un moment. Catastrophique non, et non, le film a un point de vue dessus
mais c'est fou.
Qui est à l'ouest. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait peut-être moyen d'écrire un truc pas con dessus et que le film a décidé d'aller dans toutes les mauvaises directions et d'en finir avec un brûlot complètement réac.
En fait, le plus stupéfiant, et je pense que c'est vraiment ça qui sort, c'est qu'il y a des scènes qui, pour toute personne qui, d'une façon ou d'une autre, déjà des connaissances enseignantes ou même juste d'une façon ou une autre à travailler avec des enfants en tant qu'aide au devoir.
Ou est allé à l'école.
Ou est allé à l'école tout court par ailleurs, voit ça et fait mais jamais de la vie c'est approprié. Et le film les montre comme si c'était tout à fait normal. C'est le manque total sur des scènes qui sont évidentes de recul du film qui est stupéfiant. C'est ça, tu le dis. Tu dis ça, mais qu'il l'ait écrit, qu'il l'ait tourné et que personne, sur les centaines de personnes probablement qui ont fait le film. Ils ont tous fait l'école de la vie. C'est ça, ça a été produit par Léa Seydoux. Mais c'est hallucinant. On ne comprend pas comment un produit pareil émerge en fait.
N'allez pas le voir.
Oui.
Vraiment.
N'allez pas le voir.
Non, parce que ça a l'air marrant mais comme on vous le raconte à la limite. C'est parce que là, on s'amuse un peu à en parler. Parce qu'il y a des nanars, il y a des navets. Mais. C'est même pas
seul,
drôle à regarder.
Seul dans une salle, c'est pas si simple. Vraiment,
c'est drôle de bitcher dessus, là, maintenant. C'est ça que vous compreniez. Il faut pas vous laisser tenter, parce que là, on s'amuse un peu, c'est un peu marrant de cracher dessus, de vous dire que c'est drôle à regarder. Parce que le pire, c'est qu'en plus, c'est pas drôle à regarder. C'est juste chiant, pénible et indulgent. C'est jouer avec le cul, mais pas d'une façon qui est stupéfiante. Il n'y a pas de...
Stop avec le cul, là.
Ça suffit, c'est terrible. Je suis désolé. C'est... Bref, voilà. Mais quoi qu'il en soit, n'allez pas le voir, ne donnez pas d'argent à François Civil, quelle que soit la raison, voilà.
Ne confiez pas votre argent à François Civil,
voilà. Quel que soit le canal de distribution, et c'est tout, quoi. Enfin bon, sur cette note positive, je crois que cette émission arrive doucement, tranquillement, péniblement à sa fin. Et voilà, bonne ambiance. Et je crois que on vous dit à la semaine prochaine.
Bonsoir.
Ils n'entendront pas le fait qu'on a dit deux choses différentes, c'est pas grave.
Moi, je dis au revoir, là, j'ai dit bonsoir.
Bonne nuit, les enfants. Allez.